Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Et moi, j'aime l'entreprise.
On pourrait faire buter le patron par un professionnel.
J'aime l'entreprise.
Là, je mettrais plus les pieds dans cette tôle, là.
Il faut que tu rationalises.
Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein.
Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1.
Mais quel patron?
C'est la solution la plus rentable. Non, pas seule.
Sans publicité, il n'y aurait plus liberté d'idées.
Qu'il y ait un troussage de domestiques, je vois, c'était pas bien.
Mot d'ordre central, brisé, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme.
Offensive sonore, un vendredi sur deux sur Radio Libertaire.
Le sujet de l'émission, ce sera la Crimée, donc une région qui est au cœur du conflit depuis un an qui oppose l'Ukraine à la Russie. Pour cette émission, le 15 février dernier, nous avons enregistré un débat avec Olga Miryasova, une militante antifasciste et anarchiste de Russie. Et c'est un débat qui concernait Alexandre Kochenko, qui est un militant anarchiste de Crimée qui risque actuellement 20 ans de prison. La révolution ukrainienne, c'était il y a un an.
Des scènes de guerre sous les yeux du monde entier en Ukraine. Ces manifestants ne sont pas armés, ces images le prouvent. 1-1, ils sont pris pour cible par la police. Le ministre de l'Intérieur assume, il reconnaît avoir équipé la police d'armes de combat dans le cadre de l'opération antiterroriste déclenchée la veille. Le ministre a signé un décret, ces hommes ont carte blanche.
Le 22 février 2014, à l'issue de 3 mois de mobilisation populaire, le président ukrainien Yanukovych, après avoir fait tuer une centaine de manifestants, s'enfuit en Russie. La chute de son homme à Kiev, la crainte d'un approfondissement du processus révolutionnaire en Ukraine et sa répercussion en Russie conduisent Poutine à lancer une opération politico-militaire en Ukraine. Après une pseudo-consultation électorale en Crimée, l'armée russe rattachait cette république autonome à la Russie. Ceux qui étaient opposés à cette annexion étaient aussitôt soumis à la répression. Les Tatars d'abord, mais aussi tous ceux, russophones ou non, qui refusaient cette farce électorale. C'est dans cette situation que furent notamment arrêtés un jeune cinéaste ukrainien, Oleg Sentsov, et un militant pacifiste, Alexandre Kolchenko. Alexandre Kolchenko est un militant anarchiste et antifasciste de Crimée. Il a été kidnappé par le FSB, les services secrets russes, dans la nuit du 11 au 12 mai 2014. Le 30 mai, le FSB a enfin annoncé qu'il était arrêté, car il appartenait à une organisation terroriste. Il est toujours en détention et il risque 20 ans de prison.
Yeah. Yes, man. Yeah. Ladies and gentlemen, this song is about a man I really like. He's so cute, he's so strong and so powerful. This yeah. song is about
Vladimir
Putin.
Vladimir Vladimir
Putin.
Vladimir
Vladimir, das sag ich dir, der macht es wirklich richtig geschickt. Ein bisschen Dicke-Dacke, Diktatur und alle schauen entgeistert zu. Das geht halt nur, weil jeder weiß, ohne Gas ist ein Schaß. Drum bugeln alle vor dem Russen, alle müssen kusch, kusch, kusch.
Vladimir.
Dans les locaux de l'émancipation à Paris, le 15 février dernier, se tenait une réunion de soutien à Alexandre Kolchenko. Les intervenants étaient Vincent Présumé et Olga Miryasova, militante anti-autoritaire, antifasciste et spécialiste des mouvements protestataires en Russie. Vincent Présumé.
Le 16 octobre dernier, une première réunion s'était tenue ici, à propos de l'Ukraine. Et lors de cette réunion, un camarade anarcho-syndicaliste russe, Kirill Bouketov, nous avait parlé d'Alexandre Kolchenko. Et lors de cette réunion, moi et d'autres, nous nous sommes dit que, en tant que militants français, en tant que syndicaliste français, on avait une responsabilité à prendre. Alors moi, je suis un militant politique, mais je pense pouvoir dire qu'ici, je suis là avant tout en tant que responsable départemental de mon syndicat, la FSU, Fédération syndicale unitaire de l'Allier, c'est-à-dire un syndicat ordinaire, quoi, un syndicat de masse. Et je pense qu'il appartient au syndicalisme, au mouvement ouvrier français, de se mobiliser sur Kolchenko. Et je vais essayer donc de dire pourquoi. Pour aborder ce qui se passe en Ukraine ou en Russie, il y a une difficulté en France. Le manque d'information, le manque de culture, parfois le manque de curiosité dans beaucoup de milieux militants français qui, depuis 1989-1991, ont mis l'Europe de l'Est, la Russie, dans un placard et ils n'y pensent plus, ils ne veulent plus en entendre parler. Ça, c'est le premier problème. Ensuite, le deuxième problème, qui est plus grave, c'est que beaucoup de militants, parfois sincères, vivent sur les souvenirs de la guerre froide ou même de la Seconde Guerre mondiale et donc se laissent facilement, on leur fait facilement croire qu'en Ukraine, il y a l'armée rouge, n'est-ce pas, dans le Donbass, et la Wehrmacht à Kiev. Et ça, c'est une vision des choses qui est mythique, mais qui est très forte. Et le troisième problème, c'est que en France, on est très doué pour faire des reproches au gouvernement français, à l'impérialisme français, mais surtout et même seulement quand on peut accuser l'impérialisme français de s'aligner sur les États-Unis. On ne se rend pas compte que l'impérialisme français a sa propre politique. Donc, par exemple, en Afrique, la politique de l'impérialisme français en Afrique, on en parle très peu. Et les militants français ont tendance à croire que, sur l'Ukraine ou la Russie, l'impérialisme français est aligné sur Washington, les méchants américains, et n'a pas sa propre politique. Mais quand c'est notre impérialisme à nous qui fait sa politique gauloise, française, en Afrique, qui fait la politique qu'il veut, si ça a l'air indépendant de Washington, alors là on est content. C'est-à-dire que souvent en France, l'anti-impérialisme est le masque du chauvinisme français. Bon, je résume, mais je crois qu'on a ce problème. Alors, tout ça entraîne des difficultés politiques importantes. Et en même temps, le mouvement ouvrier français, autrefois, au temps de la coupure de l'Europe en deux par le rideau de fer, a joué un grand rôle justement pour surmonter cette coupure et faire des campagnes pour la libération de militants. Aujourd'hui, c'est plus dur, alors que les gens circulent plus, alors qu'il y a Internet. Pourtant, aujourd'hui, c'est devenu plus difficile à cause de cet héritage politique. Donc, le but de la campagne qu'on veut engager, c'est de surmonter ça. Ça demande à la fois de produire des actions et de fournir beaucoup d'explications. Le cas d'Alexandre Kolchenko, c'est étrange de dire cela, hein, mais le cas d'Alexandre Kolchenko est un cas merveilleux pour ça. Parce que vous avez un Ukrainien anarchiste antifasciste qui est arrêté, amené à Moscou, et il le traite de fasciste. Et ils ne veulent pas admettre qu'il est ukrainien. On a là le résumé de tout. Donc, si on engage une bataille sérieuse en France, avec des prises de position d'organisations syndicales, des actions, peut-être à un moment donné une délégation à l'ambassade de Russie, si on engage une campagne sérieuse en France, non seulement, bien sûr, ça a pour but d'aider ce camarade, mais ça permettra aussi de développer les discussions dans les syndicats, dans le mouvement ouvrier français, et de travailler à rattraper notre retard internationaliste.
Відкрий правди трішечки, чи мене не вистачить, загину ти по весні.
Toujours sur Radio Libertaire 89.4 FM, c'est l'émission offensive qui continue jusqu'à 22h30. On est toujours dans le débat qui a eu lieu à l'émancipation le 15 février dernier, et c'est Olga Mariasova, militante antifasciste, qui va nous parler du cas de Kolchenko.
Donc on a déjà dit que Kolchenko était en prison, mais je vais un peu expliquer ce qu'il faisait, enfin quelle était son activité. Donc il a 24 ans, il vivait en Crimée et il était à l'université, et en même temps il travaillait à la poste pour gagner son argent. Donc les dernières 5 années, en fait, il était à l'intérieur de différentes initiatives militantes en Crimée. Comme c'est un petit territoire, en fait, il n'y avait pas tant de gens que ça. Et donc, c'est à peu près toujours les mêmes personnes, le même milieu qui se trouvaient sur différentes luttes. Donc, il y avait des luttes écologistes, des luttes antifascistes, et aussi il y avait un mouvement syndicaliste étudiant qui a organisé différentes campagnes. Donc il y a 2 ans, il y avait une section action autonome en Crimée. Quand Maïdan a commencé, quand les événements de Maïdan ont commencé, ça a bien sûr soulevé un intérêt énorme. Et Kolchenko, en fait, il est venu à Maïdan quelques jours parce que comme il travaillait, il n'était pas disponible pour. Et quand ont commencé les événements autour de l'annexion de la Crimée, des élections en Crimée, Kolchenko et ses comparses se sont activement impliqués dans un mouvement de protestation contre ça. Donc la plupart du temps, c'était des rassemblements pacifiques, des sortes de fronts communs où il y avait différentes organisations, mais même ça, c'était assez difficile de l'organiser dans la situation. Donc il faut savoir, enfin vous le savez, il y avait déjà beaucoup d'installations, de compagnies, d'armées qui étaient présentes en Crimée. Donc le mode d'intervention des soldats, c'était bien sûr de ne pas se présenter comme soldat, mais d'être en civil, d'avoir des groupes paramilitaires. Donc c'était une manière d'une autre forme d'intervenir sur ce territoire-là. Et donc le rôle que se sont donné ces mouvements antifascistes, c'était de fournir une sorte de protection aux gens qui voulaient faire différentes actions. Par exemple, s'il y avait des rassemblements dans des structures municipales, d'assurer la sécurité. Et c'était difficile à faire pour les antifascistes parce que les soldats qui étaient en uniforme, enfin qui étaient anonymisés, on peut dire, ils étaient très bien préparés physiquement et ils savaient qu'en fait ils avaient une liberté d'action telle qu'ils se permettaient de faire ce qu'ils voulaient. Et le deuxième problème, c'est qu'il y avait, avec la telle propagande qu'il y avait, c'était difficile d'agir et de savoir qui est qui, de faire des différents camps, sections, parce que la propagande avait une telle force sur les esprits. Donc après le référendum, c'était encore plus difficile de faire quelque chose. Donc la forme d'action, c'était surtout des graffitis, d'étendre des banderoles, par exemple, sur des bâtiments. Mais c'était, on pouvait aussi se rassembler de manière informelle, mais enfin, c'était une forme d'action qui était possible à ce moment-là, au printemps. Dans cette période-là, en fait, il n'y avait pas d'actes que les gens puissent pas entendre. Donc même s'il n'y avait pas d'action terroriste ou d'information autour de ça, en mai, il y a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées pour ces faits d'actes de terrorisme. Comme c'est le FSB qui procédait en fait à ces arrestations, donc c'est top secret, donc c'était pas possible d'avoir beaucoup d'informations sur ce cas-là. Donc à la télévision, il y a une sorte de publicisation de cette histoire-là, et ils ont présenté en fait les personnes qui étaient arrêtées comme des membres du secteur droit. On a accusé ces personnes pas seulement d'avoir provoqué des incendies criminels de bureaux, mais aussi de vouloir éteindre la flamme éternelle et de vouloir occuper le monument à Lénine, enfin de gros espaces symboliques, oui. De faire des actes terroristes qui attaquent les gens Donc ça fait déjà 9 mois qu'ils sont dans cette prison du FSB à Moscou. Une des personnes qui a été arrêtée, il a été tabassé à Saint-Féropol, en fait, c'est l'endroit où ils ont été arrêtés avant d'être conduits à Moscou. Il y a un autre aspect important de l'histoire, c'est qu'une partie des... Une partie des citoyens de Crimée ont obtenu la citoyenneté russe, quoi, ce qu'ils demandaient. Après le référendum, pendant un mois, en fait, les personnes pouvaient décider de refuser la nationalité russe. C'était difficile pour les personnes de se rendre compte dans l'espace d'un mois, est-ce que je veux refuser la citoyenne russe. Donc, et il n'y avait que 4 endroits où on pouvait le faire en Crimée. Donc la plupart des gens, ils n'ont pas réagi à cette proposition et ils se trouvent dans l'illégalité maintenant. Donc ils n'ont fait ni une procédure ni l'autre, donc ils sont entre deux statuts. Ils sont ni vraiment russes parce qu'ils n'ont pas fait la procédure pour être russes, mais ils n'ont pas non plus, s'ils avaient fait la procédure ukrainienne, du coup il faudrait un permis de séjour pour pouvoir résider sur un territoire russe. Donc ils sont un peu illégal, on peut dire. Et les 4 personnes qui ont été arrêtées, pour le gouvernement russe, c'était important de les considérer comme des citoyens russes, parce que comme ça, les consulats ukrainiens, tout ça, ne peuvent pas intervenir, parce que ça reste une affaire russe et russe. Et les 4 personnes qui ont été arrêtées, pour le gouvernement russe, c'était important de les considérer comme des citoyens russes. Et après, ils se sont rendus compte qu'il y avait une de ces 4 personnes qui avait fait la démarche pour justement refuser la citoyenneté russe et qui avait s'était accordé pour devenir ukrainien, donc ça a compliqué l'histoire. C'est une situation un peu absurde parce que d'un côté, deux accusés disent nous sommes ukrainiens, les juges disent ce sont des Russes, donc c'était difficile de prolonger un procès comme ça quand il n'y a pas de. Quand les choses ne sont pas fixées, quoi. Et un des rôles de notre campagne, c'était justement de montrer, de soutenir que ces personnes sont des citoyens ukrainiens. Et ça peut en fait alléger un peu leur sort, quoi, d'accentuer sur ça. Et c'est une grande histoire aussi. C'est un peu un chaos autour de ces citoyennetés-là. En Crimée, parce que si vous êtes citoyen russe, en fait, il faut. En Russie, il y a le système de la propiska, donc l'enregistrement obligatoire sur un territoire. Et pour avoir une propiska, donc pour avoir cet enregistrement, il faut montrer que vous avez été un certain nombre d'années en Crimée et passer par un tribunal, donc c'est des situations compliquées. Il faut comprendre que cette dernière année, c'était aussi une sorte de chaos juridique, parce que avant, c'était donc un territoire ukrainien, maintenant, c'est un territoire russe, donc il y a beaucoup de choses qui sont en transformation, qui ajoutent du compliqué aux histoires. Il y a un autre problème, c'est que tous les mouvements des droits de l'homme ou des gens qui bougent un peu, en fait, ont quitté le territoire de la Crimée parce que c'était dangereux pour eux, parce qu'ils avaient des poursuites judiciaires au-dessus de leur tête, tout ça, donc ça rajoute des complications pour régler ces histoires. Le problème, c'est que les militants des droits de l'homme, qu'ils soient russes ou ukrainiens, ils voient la Crimée comme un territoire occupé, et si on commence à essayer avec les instruments juridiques russes de régler les histoires, c'est-à-dire qu'on légitime, qu'on reconnaît la présence russe en Crimée. Donc ça pose un problème pour les militants des droits de l'homme d'utiliser ces outils-là. En Crimée, il y a une association, une coalition de mouvements des droits de l'homme qui agit et qui s'appelle la mission de terrain des droits de l'homme. Et en fait, ils ont plutôt une action de monitoring des atteintes aux droits. Et un deuxième thème, un deuxième point du problème, c'est ce qui se passe en Russie et les problèmes qui sont liés à la guerre, mais vu du point de vue, sur le territoire russe. Il faut voir que la dernière année, bien sûr, la situation politique en Russie a beaucoup changé et en lien avec ce qui s'est passé en Ukraine. Et tout activiste qui s'exprime sur le thème de la guerre maintenant est au centre de l'attention. Si on parle statistiques, en 2013, s'il y avait 1500 prestations administratives, maintenant c'est 2500. Donc cette différence, les gens qui ont été, entre 1500 et 2500 personnes, cette différence, c'est surtout des gens qui se sont mobilisés autour De la guerre en Ukraine. Parce qu'en fait, il y a une forme d'action en Russie, c'est le piquet individuel. Et normalement, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à la préfecture si vous venez tout seul avec votre votre panneau. Et donc, c'est une forme, comme c'est difficile d'organiser des rassemblements, c'est une forme un peu de... Au lieu d'organiser un grand rassemblement, vous venez toutes les 10 minutes avec votre pancarte et vous succédez comme ça. Ce qu'elle expliquait, c'est qu'il y a un provocateur juste à côté, et comme vous êtes deux et pas un, donc arrestation. Donc c'est une sorte de mise en scène pour pouvoir arrêter la personne qui était toute seule à la base. L'été dernier, une étoile rouge qui a été repeinte aux couleurs, vous avez sans doute vu cette action-là, aux couleurs du drapeau ukrainien. Et après cette action-là, il y a une sorte de paranoïa du pouvoir russe de voir des nationalistes ukrainiens partout. Et en fait, avant, il y avait, par hasard, il y avait des barrières qui étaient peintes en bleu et en jaune, et c'est devenu quelque chose. Donc la paranoïa joue avec des objets qui étaient ordinaires avant et qui sont devenus politisés par cette histoire-là. Et par exemple, si c'était des personnes privées ou une équipe municipale qui repeignait par hasard leur barrière en jaune et en bleu, donc la police venait leur dire « Mais pourquoi vous repeignez avec ces couleurs-là votre barrière ?»
Чай з молоком, молися на теплий душ. Без тебе сьогодні сплять мільйони нових сердець. Давай, не можна стояти навколо прямий ефір. Тобі так мало залишилось часу сказати всім. В очі сказати їм, в очі сказати їм. Вставай, мила моя, вставай. Вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай. Мила моя, давай. Більше вимагай. Вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай. Мила моя, давай. Більшого вимагай. Більшого вимагай.
Наша прокуратура, что в апреле прошлого года Светлана Давыдова...
Là, c'est l'histoire, donc cette femme, Davidova, habite dans une petite ville de province à côté d'une caserne, et l'année dernière, il y a plus d'un an, elle a entendu une conversation dans le minibus de deux soldats qui parlaient entre eux, qu'ils allaient bientôt quitter leur casernement, et pour partir, elle en a déduit, en tout cas, qu'ils s'apprêtaient à partir pour l'Ukraine, et elle a téléphoné à l'ambassade ukrainienne pour leur communiquer cette information.
Et 9 mois plus tard, elle a été arrêtée, accusée d'espionnage au profit de l'Ukraine. Et pour cet article-là du code pénal, les sentences peuvent être extrêmement dures en Russie. Il y avait heureusement énormément de bruit autour de cette histoire. En plus, comme elle a 7 enfants et la toute dernière a 2 mois et elle allaitait encore, il y avait une forte mobilisation de journalistes et de défenseurs des droits de l'homme. Et finalement, elle a été libérée, mais sous l'interdiction de quitter la ville. Et elle est toujours sous l'accusation et le procès aura lieu. Donc la situation générale a changé. Les répressions sont très différentes de ce qu'elles étaient avant. Moins ciblées sur les personnes pressenties comme victimes de cibles de telles répressions. Et bien sûr, ça a créé un grand stress et nervosité parmi les activistes parce que personne ne sait ce qu'il va pouvoir faire demain, ce qu'il pouvait encore faire hier, quel type de répression suivra et où cette personne risque de se retrouver. Il y a plusieurs articles dans la législation russe, notamment sur l'extrémisme, mais également sur l'incitation à la haine raciale, ethnique et sociale. Et c'est surtout avec cette dernière accusation de la haine sociale qu'il y a beaucoup de cas actuellement, notamment et récemment, il y avait des activistes qui ont fait des affichages contre les actions de la police et qui ont été accusés d'incitation à la haine contre un groupe social, donc police. Et si on parle de la situation générale de la société, il y a cette campagne de propagande qui dure depuis déjà maintenant 1 an. Et c'est une campagne de propagande en quelque sorte qui est pire qu'à l'époque soviétique parce qu'elle est extrêmement émotionnelle. On parle des faits très graves qui accrochent émotionnellement les gens de façon très très forte. Ça soulève plein d'émotions et du coup ça a un impact sur la société extrêmement important. En plus, l'Ukraine, c'est un pays extrêmement proche de la Russie. Il y a un très grand mélange de populations. Beaucoup des Russes ont de la famille en Ukraine et inversement. Et les gens prennent tout ce qui se passe en Ukraine de façon beaucoup plus proche, beaucoup plus émotionnelle que n'importe quel autre voisinage. Même, par exemple, la guerre en Tchétchénie, qui a pourtant duré 10 ans sur le territoire même de la Russie, était considérée par des gens comme quelque chose de beaucoup plus lointain et quelque chose de beaucoup moins associable à la personnalité de chacun des citoyens russes que ce qui se passe en Ukraine. Et ça a fait monter la popularité dans les sondages de notre gouvernement, y compris de Poutine, pour la simple raison que les gens se disent, du moment qu'on a le toit, une maison et de quoi se nourrir, et on n'a pas des bombes qui nous tombent dessus, c'est déjà extraordinaire quand on compare à ce qui se passe en Ukraine. Et c'est ça qui a renforcé les positions du gouvernement. Et même si maintenant il y a une crise économique très importante qui a commencé à l'automne, mais qui continue maintenant et qui se renforce de plus en plus, il y a une réponse propagandiste très simple, c'est les sanctions de l'Occident, c'est l'Occident qui est contre nous. Et du coup, le gouvernement n'est soi-disant pas du tout responsable de cette crise économique, on peut toujours mettre la faute sur l'Occident. Et ça, du coup, n'empêche pas la montée de la popularité, bien au contraire. Heureusement, on peut dire, et ça on peut l'observer dans les situations, dans la population en général et dans les remarques sur Internet, que l'attitude vis-à-vis des Ukrainiens en tant que peuple et ethnie n'est pas détériorée en Russie. Et les Russes ne considèrent pas les Ukrainiens comme ennemis si on parle des personnes et de ce groupe ethnique. Et c'est pour ça que la campagne pour Kolchenko est extrêmement importante pour nous. Ce qui est important, c'est que nous le faisons ensemble avec les activistes ukrainiens de Kiev. Et pour nous, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé au milieu de cette situation extrêmement dramatique et qui concerne les deux pays, la Russie et l'Ukraine. Et nous comptons tout le temps que Kolchenko va rester en détention, faire des actions au moins une fois par mois, parce qu'il y a toujours soit l'avancée dans son affaire criminelle, soit une situation qui change politiquement et sur laquelle on peut s'accrocher pour reparler de ce cas et représenter la situation de Kolchenko à la grande public. Par exemple, le 16 mars, c'est l'anniversaire, c'est 1 an de l'annexion de Crimée. Mi-avril, ils vont de nouveau prolonger probablement les mesures de prévention de liberté de Kolchenko. Donc probablement, il y aura les reconduites de décisions de détention. Donc ça donne des prétextes une fois par mois pour faire quelque chose. Et nous comptons que ces activités vont avoir de l'écho, y compris à l'Occident, parce que faire quelque chose, faire entendre quelque chose depuis la Russie est quelque chose d'extrêmement difficile en ce moment. Merci beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions, n'hésitez pas.
Как это дебу сейчас раз, блядь, кого-то? Ющенко, блядь, Порошенко, мне похуй!